présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La Russie a dépassé la barre des 2 millions de malades du Covid-19, mais les autorités se refusent toujours à un confinement généralisé et les chiffres de la mortalité seraient sous-estimés. Nous irons à Moscou. Mike Pompeo sur le plateau syrien du Golan, c'est une première pour un secrétaire d'État américain. Il profite de sa tournée d'adieu au Proche-Orient pour ancrer l'héritage de l'administration Trump en faveur de l'État hébreu. Google signe un accord avec des journaux français. Le groupe américain va prendre en compte les droits d'auteur des publications en ligne indexées dans son moteur de recherche. La loi sur la sécurité globale examinée à l'Assemblée, les députés donnent un premier feu vert à la création d'une police municipale à Paris. Explication de Pierre Neveu. Enfin, la culture continue de vivre, mais en coulisses, à quelle échéance et selon quelles modalités pourrait-elle se déconfiner? Nous poserons la question à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Nouveau record de décès dû au Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Russie. 463 personnes de plus sont décédées pour un total qui approche maintenant les 35 000 morts. Mais ces chiffres sont officiellement contestés aujourd'hui à l'intérieur du pays par un ancien employé de Rostat, l'organe national des études statistiques dans le pays. Vous l'avez rencontré, Claude Bruyot.
Je ne suis pas contre Poutine, je suis contre le mensonge. Et là, on nous ment. Ainsi s'exprime Alexei Rakshin, spécialiste au départ de la natalité à Rostat, l'Institut national de la statistique en Russie, organisme qu'il a quitté avant la crise sanitaire. Mais ses réflexes sont vite revenus quand Alexei Rakshin a remarqué une différence très importante concernant le nombre de morts en 2020, bien supérieur à celui des années précédentes.
Vous voyez, quand on analyse les statistiques de la mortalité en Russie, les années précédentes, la tendance était toujours à la baisse et la situation s'améliorait. Mais cette année, subitement, j'ai remarqué que du mois d'avril au mois d'octobre, il y a eu 200 000 morts de plus. Et il y en aura 300 000 sans doute à la fin de l'année. Et selon moi, 80% de ces décès supplémentaires sont liés à la pandémie.
L'Institut russe de la statistique reproche à Alexei Rakshin d'avoir publié des données confidentielles sur son site, ce dont l'intéressé se défend. Mais les menaces se font plus fortes maintenant. Le démographe continue pourtant à parler. Seul moyen, dit-il, pour se protéger.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture à Moscou. Conséquence des mesures de lutte contre le coronavirus, près des trois quarts des pubs et restaurants britanniques s'attendent à mettre la clé sous la porte l'an prochain. Ils réclament plus de soutien de la part du gouvernement pour être en mesure de traverser cette crise économique massive. Les dirigeants européens entament un nouveau sommet par vidéoconférence. Au cœur des discussions ce soir, les projets de budget et de plan de relance bloqués du fait du veto opposé par la Pologne et la Hongrie. Aucune éclaircie ne semble se profiler pour l'instant. Mais les 27 doivent aussi parvenir à s'entendre pour mieux coordonner la lutte contre la pandémie de Covid-19. Angélique Boin.
Oui, et pour essayer d'éviter la cacophonie du printemps, les 27 chefs d'État et de gouvernement ont convenu en fait de se parler très régulièrement, toutes les 2 à 3 semaines, pour tenter d'accorder leur violon. Plusieurs sujets seront abordés dans la réunion qui vient de débuter. Le recours aux tests antigéniques d'abord. La Commission européenne a communiqué hier, ce n'est pas un hasard, ses recommandations sur le sujet. Sa présidente, Ursula von der Leyen, va tenter de convaincre les 27 dirigeants de recourir au plus vite à ces tests rapides, en plus des tests PCR, pour détecter les contaminations et limiter aussi les mesures d'isolement ou de quarantaine dans des groupes spécifiques ou des foyers bien identifiés pour pouvoir surveiller par exemple le personnel médical ou bien les pensionnaires des maisons de retraite. Bruxelles pousse également pour une reconnaissance mutuelle entre États de ces tests ainsi que de leurs résultats pour faciliter, vous l'imaginez, la vie des citoyens qui voyagent. Mais ces questions sanitaires, on le rappelle, relèvent de la compétence des États, pas de Bruxelles. Tout cela repose donc sur la bonne volonté. Les 27 chefs d'État et de gouvernement vont aussi discuter ce soir de la stratégie de vaccination qu'il faut mettre en œuvre, de la logistique nécessaire pour acheminer les doses ou les conserver, de la façon de communiquer aussi pour contrer la désinformation ou convaincre les anti-vaccins. On évoquera enfin l'avenir. Ils vont se projeter vers des temps plus heureux, dit joliment un diplomate, celui du prochain déconfinement, quand on pourra enfin lever les restrictions et qu'il sera là aussi nécessaire de se coordonner.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Mike Pompeo poursuit sa tournée au Proche-Orient. Arrivé hier à Jérusalem, le secrétaire d'État américain a vu ce matin le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il a ensuite effectué 2 visites sous haute protection, dans une colonie israélienne de Cisjordanie occupée, puis sur le plateau du Golan, près de la Syrie. Des déplacements et des annonces qui confirment l'entente parfaite entre l'administration Trump et le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Frédéric Mettezo.
Une poignée de manifestants israéliens qui dénoncent l'occupation se sont postés à l'entrée de la colonie. Mais ils n'ont pas vu Mike Pompeo arriver par hélicoptère. À Psagot, près de Ramallah, chez un vigneron israélien qui s'était opposé à l'Union européenne sur cette question, le secrétaire d'État a annoncé que les États-Unis étiquetteraient désormais « fabriqués en Israël » les produits venant des colonies. Depuis 1995, l'Amérique préférait « fabriquer en Cisjordanie ». Toujours en hélicoptère, il s'est ensuite rendu sur le Golan, un territoire syrien annexé par Israël en 1981. Le chef de la diplomatie américaine a aussi annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Il a qualifié les appels au boycott d'Israël d'antisémites. Avec ses deux déplacements inédits et ses déclarations, Mike Pompeo coche donc toutes les cases de l'agenda du premier ministre israélien de droite, Benjamin Netanyahou. Pour l'autorité palestinienne, la visite de Pompeo en Cisjordanie néglige de façon flagrante le droit international. Demain, dernière étape de sa visite, il se rend au musée des Amis de Sion à Jérusalem qui célèbre les non-juifs attachés à défendre Israël, un musée fondé par un chrétien évangélique américain.
Au procès de l'attentat des jouets du Thalys à l'été 2015, les passagers qui avaient réussi à maîtriser l'assaillant ont commencé à témoigner. Sans leur intervention, l'attaque aurait pu tourner au carnage. Florence Turm, vous revenez sur le témoignage de l'un des trois Américains en vacances qui s'était interposé au péril de leur vie.
La voix est calme, douce, accent américain, mais un français parfait, délicat. Ce 21 août 2015, Marc Mougalian, 56 ans, s'installe voiture douce dans le train de 15h17 de retour d'Amsterdam avec sa femme et leur petit chien. Mon attention est attirée par un individu qui entre dans les toilettes avec une valise à roulettes. Le temps passe, je vais voir, la porte s'ouvre et j'aperçois un homme avec de gros yeux et une kalachnikov sur l'épaule droite. Un autre passager est là qui l'attrape par le cou. Je suis revenu vers ma femme. « Va-t'en, c'est du sérieux, et j'y suis retourné. » Ensuite, reconnaît-il, les choses sont un peu floues, c'était la bagarre, le chaos. Marc Mougalian ne se rappelle plus comment il a réussi à s'emparer de la Kalachnikov. J'ai dit en anglais « I've got the gun », trois pas, et on m'a tiré dans le dos. Je tombe par terre, rampe sous un siège. J'ai pensé « j'ai raté mon coup, je vais mourir, il va me mettre une balle dans la tête ». Et puis j'ai vu un corps voler dans les airs, reprend le témoin. C'était Spencer Stone qui le taclait. J'étais content parce que la cavalerie était arrivée. Sourire au milieu du silence qui s'est imposé dans la salle. Spencer Stone, le militaire américain lui-même blessé, plonge deux doigts dans sa blessure au cou pour stopper l'hémorragie. C'est lui le véritable héros, glisse le témoin. « Qu'attendez-vous de ce procès ?» lui demande le président. Le ton reste calme, mais la voix plus ferme. Je voudrais que cette personne n'ait plus la possibilité de commettre un tel acte. Vous autorisez mon client à lui parler, risque l'avocate de la défense. Marc Mougalian se tourne vers elle. Non, je n'accepte pas.
Florence Turm au palais de justice de Paris avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Le ministre de l'Intérieur veut rassurer les journalistes. Alors que la loi sur la sécurité globale est examinée à l'Assemblée, Gérald Darmanin propose un amendement pour modifier l'article 24 si contesté et garantir clairement la liberté de la presse. Une rencontre est prévue ce soir avec le patron des députés LREM Christophe Castaner autour du Premier ministre Jean Castex. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, les députés ont ouvert la voie à la création d'une police municipale à Paris. Ce serait une grande première, Pierre Neveu.
Depuis l'élection du maire de Paris en 1977, la création d'une police municipale a toujours fait l'objet de vifs débats. Il aura fallu attendre la loi de 2017 réformant le statut de Paris, puis cette proposition de loi sur la sécurité globale pour que la capitale se dote enfin d'une police municipale. Service qui sera toujours sous l'autorité de la préfecture de police de Paris. À l'horizon 2024, 5000 agents auront été formés pour assurer la sécurité publique en renfort des policiers nationaux. Ils seront dotés des mêmes pouvoirs et compétences que les autres policiers municipaux sur le territoire, mais ne seront pas équipés d'armes létales. C'est le souhait de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais dans l'opposition municipale, on compte bien saisir le Conseil de Paris pour faire évoluer cette future police municipale, comme à Nice, où des policiers armés ont répondu à la menace terroriste. Pour Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement, l'État devrait imposer l'armement des policiers municipaux quand la sécurité des Français est en danger. À titre personnel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'y est pas opposé. Il préfère laisser la décision à l'appréciation des maires.
Pierre Neveu, c'est un tournant dans les relations qu'entretiennent Google et les médias français. Le géant américain vient de signer plusieurs accords avec des journaux pour rémunérer l'utilisation de leur contenu. Il s'agit d'une première mondiale, Céline Baydarcourt, qui s'inscrit dans le cadre de la législation européenne sur les droits voisins.
Le Monde, Libération, Le Figaro, L'Obs, Courrier International, plusieurs quotidiens et magazines ont réussi à tordre le bras aux géants du numérique. D'autres devraient suivre d'ici la fin de l'année. Google va bel et bien payer les éditeurs qu'il pillait depuis des années. Car le droit voisin, c'est en fait un droit d'auteur qui n'existait pas jusqu'à une directive européenne de 2019, transposée ensuite dans le droit français. Elle interdit aux plateformes de reprendre gratuitement les articles, les photos, les vidéos réalisées par des médias, à charge pour chacun d'entre eux de discuter directement avec les GAFA du montant de la rémunération. Si Facebook n'a jamais rien voulu entendre, Google, lui, a fait semblant, mais sans vraiment jouer le jeu, profitant de son statut de mastodonte. Il a fallu que la justice française lui ordonne de négocier de bonne foi. C'était début octobre. Un mois et demi plus tard, les premiers accords sont donc signés. Cela représente entre 25 et 30 millions d'euros par an pour les titres d'information générale.
Deux tiers de la flotte mondiale clouée au sol à cause de la crise du coronavirus. Après des signes encourageants de reprise cet été avec le déconfinement, les compagnies aériennes comme Air France voient leur activité fortement réduite. Et le second confinement risque encore de fragiliser Air France qui perd actuellement 10 millions d'euros par jour. En attendant donc la reprise du trafic pour tenter de réduire ses pertes, la direction d'Air France, qui a déjà annoncé la suppression de 8500 postes, négocie actuellement la mise en place de l'activité partielle de ses salariés. Et ce, Hakim Kasmi, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier.
Si Air France exclut pour l'instant un nouveau prêt garanti par l'État, mais plutôt le recours au marché financier avec l'ouverture d'une partie de son capital, à court terme, la direction qui sait que la reprise n'est pas forcément prévue tout de suite, et ce, malgré les annonces prometteuses d'un vaccin contre la Covid-19, a donc entamé des négociations pour mettre en place l'activité partielle pour 2 ans à partir du 1er janvier. L'accord devrait être signé par les syndicats. Résultat, les personnels navigants qui sont payés en grande partie à l'heure de vol risquent de perdre une part importante de leur salaire. Rien que chez les ETC stewards, cette perte pourrait atteindre les 30%. Éric Filu, secrétaire général adjoint du SNPNC.
Donc aujourd'hui, c'est 84% du salaire minimum garanti. Mais à côté de ça, on touche ce qu'on appelle, sur les activités travaillées, le minimum garanti, qui n'est pas le salaire normal que nous avons, puisque nous sommes à une activité qui est nettement plus faible. C'est-à-dire qu'on travaille, mais beaucoup moins. Donc les jours où on ne travaille pas, nous touchons le chômage. Et les jours où nous travaillons, nous touchons à peu près 30% de ce qu'on touche habituellement.
Idem pour les pilotes, certes mieux payés, mais qui devraient perdre tout de même entre 25 et 40% de leurs revenus.
Depuis le début de la crise, les pilotes financièrement font déjà un effort individuel de 25 à 40% sur leur rémunération. Et ces derniers mois, on a quand même vu l'effectif des pilotes fondre de 10%. Plus de 360 pilotes sont déjà partis en départ volontaire. Donc socialement parlant, nous n'avons plus de sureffectif à proprement parler. Maintenant, la situation ne devrait pas encore empirer, sinon effectivement nous serions devant de grands problèmes.
Actuellement, Air France, qui perd 10 millions d'euros par jour, va également supprimer 8500 postes dans les 2 prochaines années pour tenter, tant bien que mal, de réduire ses coûts.
Les acteurs de la grande distribution, du commerce et du commerce en ligne envisagent de décaler d'une semaine l'opération promotionnelle du Black Friday, mais ils conditionnent ce report à la réouverture des commerces d'ici là. Bercy planche sur le dossier et une nouvelle réunion est programmée demain après-midi. Invité exceptionnel du journal de 18h, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la ministre.
Bonsoir.
Et merci de votre présence dans ce studio. Il faut dire qu'on s'y sent souvent seul ces temps-ci. Alors, un petit tour d'horizon pour commencer. La culture, comme d'autres secteurs, est actuellement soumise aux restrictions sanitaires. Les cinémas, théâtres, musées, salles de concert sont fermées. Les libraires entrouvrent leurs portes pour tendre aux clients les livres qu'ils ont commandés. C'est dur, mais la culture n'est pas morte, Anne Lamotte.
Non, la culture n'est pas morte, Aurélie. Elle continue de vivre ici et là, en coulisses. Les musées peuvent préparer leurs expositions. Dans les théâtres, on peut répéter. Les réalisateurs de cinéma peuvent tourner. On capte des concerts. Quant aux librairies, vous savez, elles adoptent massivement le fameux click and collect. Donc non, la culture n'est pas morte, mais en fait, elle est sous perfusion. Les libraires pourraient sauver seulement 20% de leur chiffre d'affaires. Les tournages n'échappent pas au virus. Un acteur cas contact et tout est bouleversé. Quant aux répétitions, comment payer des comédiens quand on n'est pas subventionné, s'interrogent les professionnels du spectacle vivant privé aux abois. Le secteur affiche une perte de plus de 2 milliards d'euros, moins 85% de son chiffre d'affaires cette année. Le moment est crucial, avertissent ces professionnels du spectacle et du cinéma. Pas sûr que le modèle français puisse se relever et survivre sous le poids des plateformes. Et que dire des DJ sans platine depuis le 17 mars, les boîtes de nuit n'ont jamais rouvert. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, semble se battre, reconnaître connaissent les acteurs culturels que nous interrogeons, mais il nous faut, insiste-t-il, de la visibilité. Arrêtons le stop and go. Quand pouvons-nous espérer voir nos salles rouvrir pour de bon et comment? Jauge réduite, public assis, mi-décembre, mi-janvier? Ils avouent entendre tout et son contraire.
Merci Anne Lamotte. Alors la ministre de la Culture va peut-être pouvoir nous éclairer. Roselyne Bachelot, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait le point en ce moment même sur la situation sanitaire. On sait que les restaurateurs vont devoir patienter jusqu'en janvier. Et quid des salles de spectacle? Parce qu'elles ont besoin, vous l'avez entendu, d'échéances claires pour anticiper, s'organiser. Est-ce que vous pouvez vous dissiper un peu de cette incertitude?
D'abord, permettez-moi, en arrivant en France Culture, de vous féliciter pour les merveilleux chiffre d'audience. Je crois que vous n'avez jamais atteint cette audience de toute l'histoire de France Culture. Donc, votre ministre est très heureuse de vous féliciter.
Bon. Et on en remercie les auditeurs.
Et évidemment, évidemment. Et moi-même, ayant travaillé dans une vie antérieure sur vos confrères de France Musique, je les félicite aussi à l'occasion. Mais bon, oui. Effectivement, nous n'avons pas de visibilité parce que le coronavirus ne nous laisse pas de visibilité. Et nous voulons justement éviter de prendre des décisions trop hâtives, mal assurées, qui entraîneraient justement cette politique, pardon pour ce cet anglicisme de stop and go, qui est évidemment ingérable pour les acteurs et en particulier les acteurs du spectacle vivant. Nous attendons donc devoir stabiliser les bons chiffres qu'annonce Olivier Véran avec une nette décélération des contaminations, c'est vraiment très très net, une stabilisation plutôt qu'une décrue, mais enfin une légère décrue des entrées en réanimation et en hospitalisation, tout ça fait que nous préparons avec les acteurs pour pouvoir être prêts, parce que nous savons une chose, c'est que sur les commerces de proximité, comme les librairies qui me tiennent tellement à cœur, il faut 2 ou 3 jours pour être prêt. Hein. Pour les salles de spectacle, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut réouvrir la billetterie. Bien sûr, il y a des répétitions, mais ces répétitions, les répétitions, je dirais, opérationnelles, ont besoin d'être faites. Donc, il faut compter 15 jours à 3 semaines. Je tiens des réunions avec les professionnels, en particulier avant-hier avec les directeurs des scènes nationales. Ils m'ont tous à peu près dit la même chose. Moi, ce que je note, c'est que ces endroits sont des endroits sûrs et ce qu'il faut éviter, c'est les mouvements de population autour de ces lieux culturels. C'est pour cela que nous regardons avec l'ensemble de ces acteurs les mesures renforcées. Nous ne sommes pas déconfinés. Ce sont des mesures d'adaptation pour permettre l'accès des citoyens à la culture de la meilleure façon et en particulier au spectacle des fêtes. Ça, vraiment, je croise les doigts.
On a l'intention de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Très concrètement, est-ce que la semaine prochaine, dans son intervention, Emmanuel Macron est susceptible de nous annoncer la réouverture des libraires?
Je crois que le président, il est comme nous, c'est-à-dire que il est anxieux et pressé de faire ses annonces. Il attendra les résultats des chiffres qui vont tomber. Et je peux vous garantir que si les chiffres sont bons et mettent des ouvertures intéressantes, eh bien, on sera les premiers à faire les annonces et à préparer, d'autant que nous faisons cette préparation.
Et sinon, il n'y aurait pas des astuces, rouvrir dans certaines zones moins touchées par l'épidémie, dans des petites villes où il y a moins de brassage de population? Est-ce que vraiment tout le monde doit attendre?
C'est compliqué. Cette stratégie du confinement sélectif peut se comprendre dans la première phase de l'épidémie où il y avait vraiment des zones très caractérisées par l'épidémie. Là, on a quand même une diffusion massive sur le territoire du coronavirus et on voit que des zones qui n'étaient pas du tout touchées, je pense à par exemple la région de Saint-Étienne, sont touchées. Donc la caractéristique géographique de cette nouvelle phase de la pandémie ne ressemble pas à la première et nous interdise un confinement sélectif. deuxième élément, nous avons voulu un confinement adapté. C'est-à-dire que le premier confinement était très strict. Là, nous avons mesuré un certain nombre d'effets secondaires sur l'économie. Donc, on peut aller travailler sur l'école. Bon, parce que l'enfant privé d'école, ça a un effet psychologique évidemment très grave qu'on peut mesurer, que la Société française de pédiatrie a mesuré. Donc, il y a des mouvements de population qu'il n'y avait pas dans la première phase de confinement. Donc, ça aussi, c'est un élément qui rend hasardeux le confinement sélectif. J'ai l'impression d'être redevenu ministre de la Santé. Pardon. Je vais laisser Olivier Véran s'exprimer. Je ne veux pas marcher dans son couloir.
Merci Roselyne Bachelot. Vous restez en studio avec nous. Un mot pour saluer le comédien Michel Robin, ancien sociétaire de la Comédie française. Il est mort à 90 ans, victime du Covid-19. Il avait joué de nombreux seconds rôles au théâtre comme au cinéma. Il avait obtenu le Molière du meilleur second rôle en 1990 pour La traversée de l'hiver avec deux Yasmina Reza. Un aperçu du temps qu'il fera demain vendredi, le plus souvent des éclaircies, du vent dans le sud-est, de la pluie en Corse. Des petites gelées sont attendues dans le nord-est demain matin, température minimale pas plus de 11 degrés. Et l'après-midi, entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, 11 à 18 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.